Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Notre série sur la littérature générale et comparée se poursuit avec Pierre Brunel et Xavier Darcos de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour madame.
Merci de votre venue à Canal Académie pour évoquer les liens entre littérature antique et littérature moderne. Liens inépuisables quand ils mettent en scène la mythologie gréco-latine. Je pense particulièrement à Ovide, ses métamorphoses, le drame de son exil. Ovide qui connaît une postérité inégalée, je crois, en littérature bien sûr, mais aussi dans tous les domaines artistiques, peinture, danse, cinéma, pour ne citer que, et musique. Et à ce propos, je me tourne vers vous, Pierre Brunel. Quelle pause musicale avez-vous choisie pour cette émission ?
Alors j'ai choisi deux pauses très différentes. L'une, c'est une pièce pour violon et piano, La Fontaine d'Arethus, du compositeur polonais Karol Szymanowski, une œuvre du début du XXe siècle. La série s'appelle Myth et c'est le premier numéro de cette série. Et puis le deuxième exemple qui m'a semblé opportun pour illustrer cette fois-ci l'exil et l'exil au bord du pont Euxin, le début de l'Iphigénie en Tauride, l'opéra de Gluck.
Très bien, merci. Nous entendrons, dans l'ordre de votre présentation, les deux pauses musicales. Xavier Darcos, vous avez été professeur de littérature comparée à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Vous avez participé au Dictionnaire des mythes féminins sous la direction de Pierre Brunel. Vous avez dédicacé à Pierre Brunel votre dernier ouvrage « Ovide et la mort » dans lequel vous faites une approche du spiritualisme ovidien, son évolution en exil. Et aussi, je vais vous citer, parce que c'est votre conclusion de l'avant-propos que je trouve très intéressante, parce que vous dites « Au-delà d'Ovide, isoler et analyser le motif de la mort dans ses écrits, c'est tenter de cerner la mentalité des élites latines de son temps, à la fois éclairée et superstitieuse, indécise face à l'élargissement du destin de Rome et perplexe devant l'accélération de l'histoire ». Donc, Xavier Darcos, on voit qu'il y a une vague d'inquiétude qui semble toucher la société de l'époque d'Auguste. Et comment le mythe de la métamorphose répond à cette inquiétude ?
En tout cas, ce qui est généralement admis, c'est que dans la dernière période qui précède notre ère, le formalisme religieux romain ne répondait plus complètement aux besoins d'adhésion à une crédulité, à une croyance, de contact qu'il y avait une divinité personnelle, ne répondait pas aux besoins émotifs et sensibles des inquiétudes métaphysiques qui habitent l'homme. Et donc on continue à avoir ce formalisme, des rites romains d'une complexité sans nom auquel personne ne comprenait plus rien d'ailleurs. Ovide d'ailleurs a essayé de les comprendre, de les analyser dans un autre de ses livres qui s'appelle Les Fastes. Et à côté de cela, se sont développés des cercles.
Les néo-pythagoriciens,
par exemple,
l'orphisme.
L'orphisme, des cercles qu'on appelle aujourd'hui orphiques ou néo-pythagoriciens, où on se posait la question du destin de l'âme, de la survie, d'un au-delà, d'une récompense pour les élus, enfin, où commençait à s'organiser une métaphysique qui ressemble à celle, au fond, du christianisme. Et d'ailleurs, beaucoup de textes ont été écrits beaucoup plus tard pour voir dans le néopythagorisme ou dans les textes écrits à cette époque-là des sortes de prémonitions de la naissance de Christ. On l'a dit en particulier pour une célèbre bucolique, pour la cinquième églogue de Virgile. Donc, dans ce contexte, ce qui est arrivé à Ovide est intéressant parce que lui, bon gré mal gré, il a été arraché à une vie de notable, d'homme puissant et de mondain à Rome et est plongé dans une solitude, dans un exil, où eh bien, il est obligé de se poser la question des fins dernières. Au point même, comme nous le disions tout à l'heure avec Pierre Brunel, au point même que ça fait l'objet d'un roman, il y a quelques années, de Vatilia Orlia, qui imaginait qu'Ovide avait entendu parler, dans les derniers jours de sa vie, de ce qui serait plus tard le christianisme. Et donc, cette période est intéressante, en ceci que des consciences commencent à basculer. Et d'ailleurs, c'est la période aussi où se développe à Rome un grand nombre de religions à mystère, hein, le mithraïsme, l'isisme, dont on ne sait, enfin en tout cas les érudits le savent, et moi je ne sais pas exactement le détail des rites qui s'accomplissaient, mais qui avaient tous un point commun, tous ces rites avaient un point commun, c'est qu'ils promettaient d'une part une adhésion avec la divinité, prendre contact avec un dieu personnel, ce que le formalisme religieux officiel ne permettait pas, et d'autre part ils promettaient un destin post-mortem, autre que de descendre dans des enfers ombreux où on allait errer à vie. Et voilà pourquoi il m'a semblé qu'Ovide était, de ce point de vue-là, non seulement intéressant pour lui-même, mais pour son époque.
Et Pierre Brunel, quand nous parlons d'Ovide, nous parlons d'une époque reculée, mais de nos jours, la littérature ne s'arrête pas d'utiliser Ovide ou d'utiliser l'Antiquité, aussi bien dans le monde universitaire que dans le monde des romans.
Les deux, effectivement. Et si vous voulez bien, je vais commencer par un exemple dans le journal Le Monde, très récemment. En tête d'une page, trois romans qui viennent de paraître, d'assez jeunes ou de jeunes auteurs. Un, Le Juste Milieu, il s'agit d'Aristote à la cour de Philippe de Macédoine, de Annabelle Lyon. 2. Ma guerre de Troie de Daniel Kammer. Bien entendu, c'est le sujet iliadique qui est repris. Et le troisième, de Thierry Lager, La lanterne d'Aristote. Voilà, sur la même page, trois jeunes auteurs et trois romans qui portent cette marque de l'Antiquité.
Vous, messieurs les comparatistes, vous devez être enchantés de tout ça.
Évidemment.
Parce que ça conforte.
Et alors, pour ce qui est d'Ovide, pour s'en tenir pour l'instant aux métamorphoses, j'ai deux exemples sous la main qui sont assez curieux, pas très connus, je crois. L'un, c'est un livre d'un auteur ou d'une femme auteur japonaise, Yoko Tawada, Opium pour Ovide. C'est un livre du début des années 2000, écrit en allemand, curieusement, et traduit de l'allemand en français aux éditions Verdier. Et un autre exemple curieux aussi, c'est Les Contes d'Ovide de Ted Hughes. Ted Hughes, c'est le mari de la poétesse Sylvia Plath, mari dont elle était séparée, et c'est l'un de ses tout derniers livres. Il est mort en 1998, et le livre est de 1997. Alors, dans les deux cas, il y a une volonté de modernisation. Évidemment, on reprend des sujets ovidéens, mais on les place dans un contexte moderne. Et puis, dans l'un et l'autre cas, il y a aussi un aspect ironique, un aspect ludique, qui est tout à fait une des caractéristiques de la littérature moderne. La continuité est véritablement tout à fait stupéfiante. Pour ce qui est de la continuité universitaire, eh bien, je n'ai pas besoin de rappeler que Ovide est au programme d'un grand nombre d'examens et de concours. Et si je peux rappeler ici quelque chose qui va à l'encontre, curieusement, et dont je suis en partie responsable, peu de temps après la création de l'agrégation des lettres modernes, où l'une des deux questions de littérature comparée comportait nécessairement un texte antique. J'avais proposé, c'était en 1970, les métamorphoses, mais le texte antique était les métamorphoses d'Apulée, l'âne d'or, et non pas les métamorphoses d'Ovide, avec trois textes modernes, Alice au Pays des Merveilles, la métamorphose de Kafka et Rhinocéros d'Ionesco. Pourquoi pas Ovide cette fois-ci? Je crois tout simplement à cause de l'étendue du livre. 15 livres, ça n'était pas rien pour un programme qui comporte nécessairement plusieurs auteurs.
Et puis Apulée, c'était très bien pour confirmer ce que nous disions sur Isis.
Oui, absolument.
Puisque Apulée, dans les métamorphoses, dans l'âne d'or, termine l'ensemble de son récit par une sorte de grande révélation, d'initiation à l'isisme, à la religion isiaque.
Dans le dictionnaire des mythes féminins, vous avez fait l'article de Io. Il y a un lien avec Isis?
Oui, bien sûr. Il y a tel lien d'ailleurs qu'ils ont été confondus. J'ai fait l'article Io parce que Pierre Brunel me l'avait proposé. J'ai pas une passion pour Io, mais il m'a dit il faut que tu fasses Io. Alors moi je m'exécute devant mon maître. Et puis ça m'amusait parce qu'elle était célèbre au moins auprès des cruciverbistes, celle-ci. Mais Io est un personnage extrêmement intéressant pour la mythologie, dans le sens de ce que nous disions aussi. Parce que voilà une image mythologique. Donc une jeune femme persécutée par le désir de Jupiter, transformée en vache, en génisse, et qui connaît tous les avatars possibles, imaginables, et une très grande souffrance. Mais c'est intéressant parce que, à partir du 1er siècle, les Romains reprennent le mythe d'Io comme symbole de la tyrannie des dieux. ou peut-être de l'absurdité d'ailleurs, de la mythologie antique. Qu'est-ce que c'est que ce Jupiter qui martyrise des jeunes femmes, qui les transforme en vaches, qui les empêche de communiquer avec leurs parents? Et le destin d'Io en train de boire de l'eau marécageuse et de ne pouvoir s'exprimer devant son père qu'elle reconnaît, elle peut que meugler ou beugler devant lui sans pouvoir parler, c'est un destin qui devenait subitement pathétique et très humain et qui permettait de réfléchir à travers la mythologie sur ce qui était insuffisant dans la mythologie par rapport à la destinée humaine. On trouvait que cette mythologie ne donnait pas de sens au destin, finalement, au destin d'une vie, au destin humain, à la vie, et que les dieux étaient trop injustes, au fond. Et donc, Io devenait un symbole de l'injustice des dieux exerçant un pouvoir abusif sur les hommes.
Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à la lecture de l'article de Xavier Darcos sur Io, c'est la continuité jusqu'au surréalisme français, jusqu'à un texte très beau d'André Breton. Ce qui est du problème qui vient d'être évoqué, il y a quelque chose qui me frappe, et c'est la lecture de Ventilla Oria qui a attiré mon attention là-dessus. L'attitude d'Ovide, finalement, elle est quand même double. Elle peut difficilement être autre, d'ailleurs, même quand il est exilé. Tantôt, il est un opposant à Auguste qui lui a valu l'exil. Tantôt, au contraire, il le pare de qualités extraordinaires. Et si Jupiter est dans l'ordre divin l'équivalent d'Auguste, ou si Auguste est dans l'ordre humain l'équivalent de Jupiter, on a également ce même double aspect, c'est-à-dire que Jupiter est révéré et en même temps Jupiter est mis en question. D'où cette possible évolution religieuse qui se situe, il faut bien le dire, à un moment historique crucial, c'est-à-dire que les métamorphoses d'Ovide sont écrites avant l'an 0 ou 1 de notre ère, hein, et les textes de l'exil sont écrits après.
Moi, je suis évidemment, une fois de plus, totalement d'accord avec Pierre Brunel. Et sans doute que l'une des aspects littéraires les plus intéressants des œuvres d'exil, mis à part évidemment le motif du poète maudit, etc., c'est cette ambiguïté du rapport à la puissance, qu'il faut à la fois flatter, continuer à saluer, parce que peut-être un espoir en viendrait, peut-être le pardon ou la grâce, mais en même temps que l'on ne peut pas ne pas haïr. Et donc il y a une sorte de stéréophonie, comme ça, d'oscillation continuelle du discours.
Ça dépend des correspondants,
ça dépend des correspondants.
Certains de ces poèmes sont adressés comme étant des lettres.
Et donc ça donne la totalité de ces recueils de lettres, une sorte de balancement permanent qui donne une très grande force humaine à ces lettres d'exil, que l'on retrouvera d'ailleurs à peu près chez tous les grands poètes exilés, qui à la fois seront révoltés, désespérés, protesteront, et en même temps n'iront jamais trop loin dans l'espérance d'une grâce ou d'un retour possible.
Alors les tristes et les pontiques sont moins fréquentés des lecteurs modernes que les métamorphoses, mais il y a tout de même cet exemple caractéristique de la traduction faite par Marie Darieussecq sous le titre
Triste
pontique, hein, très astucieux, et qui prouve bien la vie de ces textes encore aujourd'hui.
Avec une interprétation dans la préface très étrange, puisque Marie Darieussecq choisit, elle, de considérer que Ovide est l'exemple d'un intellectuel qui a renoncé à toute croyance, qui définitivement désespère de la métaphysique, désespère du ciel, ne croit pas qu'il y ait de salut. Donc elle fait le choix de considérer, à l'inverse exact de Ventilla Oria d'ailleurs, d'un Ovide qui est devenu complètement rationaliste. Alors je ne sais pas si elle a raison, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à partir du même texte qu'on peut avoir la thèse de Ventilla Oria, qui est pratiquement une conversion avant la lettre, si je puis dire, d'Ovide, et la thèse de Marie Darieussecq, qui au contraire en fait un athée complètement froid et désespéré.
Alors, il y a une chose qui est très frappante, et sur laquelle Xavier Darcos insiste à juste titre dans son livre sur Ovide et la mort, c'est que le dernier mot des métamorphoses...
Vivam,
je vivrai, et voilà que l'exil est comme une expérience de la mort. Les images de la mort affluent, l'ensevelissement, voilà. Alors, est-ce encore une vie qu'une vie d'exilé? Voilà la question qui se pose dans ces textes.
Ovide a donc eu raison de croire que mourir préparait à être sauvé à jamais.
Pour lui, c'est vrai, en tout cas, c'est peut-être pas vrai pour tous les grands écrivains. Tout à l'heure, Pierre Brunel parlait de l'actualité de la réception d'Ovide, comment Ovide aujourd'hui est encore très présent chez un grand nombre d'écrivains ou d'auteurs, ou l'Antiquité en général, de ce qu'il a montré dans toute son œuvre, lui-même, Pierre Brunel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu d'autres moments où Ovide a été extrêmement célèbre. On a même parlé aux alentours du XIIe, du XIIIe siècle de l'Aetas Ovidiana, où Ovide est venu succéder à Virgile et à Horace comme auteur, comme hypertexte, comment dire aujourd'hui, comme réservoir, je dirais, littéraire extrêmement fécond, et où on a puisé terriblement. Et pourquoi? Précisément pour la raison que disait Pierre Brunel tout à l'heure, c'est parce qu'au fond, on peut avoir le blanc et le noir, l'eau et le feu, on peut avoir tous les contrastes, c'est un réservoir d'images. Alors les métamorphoses, évidemment, parce que dans les métamorphoses, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Mais même les œuvres érotiques, dites érotiques, enfin les œuvres qui parlent d'amour, d'Ovide, ou les héroïdes, qui permettait de faire une sorte de déclinaison, de diversification du discours amoureux à distance. Quand on parlait, par exemple, au XIIe siècle, dans la littérature occitane, de l'amour loin, l'amour loin, vous savez, c'est le fait d'être obligé de chanter l'absente. Les héroïdes sont des lettres de femmes, certes, pour l'immense majorité d'entre elles, qui parlent d'un amour absent. Et donc, il y a eu une période où Ovide était, je dirais, la sorte de matrice de la littérature, au point même qu'on a ensuite écrit ce fameux Ovide moralisé, qui est une sorte de reprise en vers, en ancien français, de la totalité des thématiques ovidiennes.
Et vous avez d'ailleurs fait un article sur Ovide et les troubadours.
Absolument. J'ai fait un article où je parle notamment de cette question et où je montre comment les troubadours ont puisé sans vergogne dans Ovide des situations, des topos, des lieux communs, du poète qui est devant la porte fermée de sa maîtresse, de celui qui, l'amoureux qui veut essayer de soudoyer la gouvernante ou l'esclave, de celui qui est à distance, de celui qui est abandonné, de celui qui est trahi. Et tous ces lieux communs, en quelque sorte, de la poésie amoureuse, ils allaient la chercher chez Ovide et la traiter ensuite à leur manière.
À la Renaissance aussi, et au XVIIe aussi. Ovide, beaucoup en peinture.
Beaucoup en peinture. Ovide a été une sorte de source formidable pour la peinture à cause des métamorphoses.
C'est à chaque sujet. On va appeler la peinture. Oui.
Et comme la postérité a une démarche étrange, l'inverse est également vrai. C'est-à-dire qu'à Ovide, on peut substituer, dans ce qui devrait être ovidéen, quelque chose qui ne vient pas de lui. Dans le roman de Vintilla Oria, j'ai repéré par exemple deux ou trois pages qui sont à la limite du plagiat d'Homère, hein, ou des reprises d'autres poètes latins, en particulier Tibulle. Et l'exemple plus caractéristique à cet égard, c'est un exemple que Xavier Darcos prend dès le début de son livre sur Ovide et la mort, quand il cherche chez les modernes, au sens très très large du terme, des exilés, comme Ovide a pu être exilé. Il cite là trois noms, Dubellay, Mandelstam et Pavèse. Et alors c'est sur le deuxième que je voudrais insister ici. Mandelstam a publié, c'est son second recueil, en 1922, un recueil qui s'intitule Tristia, donc bel et bien les tristes, c'est la reprise du titre latin d'Ovide. Il est dans une situation d'exil ou de quasi-exil, comparable à celle d'Ovide, c'est l'époque...
Des goulags.
C'est le
début du goulag. En tout cas, il a souffrir des suites de la révolution d'octobre. Et il se trouve en Crimée, donc à peu près dans cette région du pont dit Euxin, dont Ovide fait observer qu'il est beaucoup moins Euxin, c'est-à-dire bien heureux qu'il en a l'air, bien accueillant aux étrangers qu'il en a l'air. Et dans ce recueil, qui a donc un titre pris chez Ovide, et qui, bien entendu, fait place à des thèmes pris chez Ovide et à des images prises chez Ovide, il y a des poèmes qui sont directement inspirés d'autres poètes latins, en particulier de Tibulle, une fois de plus. Une sorte de conglomérat qui se forme. Ovide n'est pas isolé, pas plus que les poètes antiques ne sont isolés dans les limbes de l'enfer de Dante.
Mais ça paraît normal, quand on fait de la littérature comparée, de savoir qu'à l'époque aussi, il y avait des influences, des échanges, des sources, des motifs qui faisaient que parfois, 2000 ans après, eh bien, quelques néophytes intéressés mais font des erreurs et mélangent quand même Ovide et Tibulle.
Je ne suis pas sûr que ce soit des erreurs dans ce cas-là. Je crois que c'est volontaire. C'est un aspect ludique, une manière de jouer avec les sources antiques en jonglant avec elle.
Oui, je pense c'est un beau mot, jongler.
Mandelstam, c'est ce qu'il a fait, car c'était un poète de grande culture et de grand talent.
Il y avait aussi le fait que Ovid était tellement connu, ou supposé tel, qu'on le confondait parfois avec d'autres auteurs qui étaient venus avant lui. J'ai lu un article récemment, mais là je ne pourrais pas en citer la référence, de voyageurs qui arrivent à la fin du 19e siècle en Islande, au Groenland, et à qui vient naturellement, disent-ils, des paroles d'Ovid. Ils se mettent à réciter de l'Ovid. En fait, ce n'est pas de l'Ovid du tout. Et cet article montrait que pour un voyageur qui arrive dans un lieu hostile et froid, comme tu disais, Pierre, par exemple, à propos du pont Euxin, une image de l'enfer, au fond, pour Ovid, ils arrivent dans ce lieu complètement gelé, épouvantable, et aussitôt, ils se mettent à réciter de l'Ovid, sauf que ce n'est pas de l'Ovid, mais ils ne le savent pas. Et c'est devenu la référence obligée, dès qu'un texte parle d'exil, de souffrance, de solitude et de froid, c'est de l'Ovide. Et pas forcément, c'est en l'occurrence d'un autre poète latin.
C'est prendre la partie pour le tout.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'il faut dire aussi quelque chose, c'est que pour les anciens, aussi bien les Grecs que les Romains, le Nord était non seulement la région du froid, mais la région de la mort. C'est le pays des Cimmériens dans l'Odyssée. Les bords du pont Euxin ne sont pas nécessairement froids, ne sont pas nécessairement sinistres. Je parlais avec des Roumains il n'y a pas très longtemps, ils étaient allés passer leurs vacances là-bas. Ils m'ont dit qu'il y avait du soleil tout le temps, ce qui n'était pas le cas sur l'Atlantique où nous étions, je pense, Xavier, l'un et l'autre. Mais c'était la réputation de cette mer noire, de ce pont Euxin chez les anciens. Un exemple admirable qui justifie la deuxième illustration musicale qui a été choisie, c'est la Tauride. La Tauride qui se trouve au nord, sur la côte nord du pont Euxin. Et c'est en Tauride que se produit cet événement extraordinaire. Iphigénie, devenue prêtresse de Diane, est obligée de procéder à des sacrifices humains. Et voilà ce que, sans qu'elle le sache, son frère Oreste arrive devant elle, flanquée de son fidèle ami Pylade. Elle est sur le point de sacrifier son frère quand, finalement, elle le reconnaît et Oreste et Pylade réussissent à se sauver. On embarque même, autant que je me souvienne, la statue de Diane pour l'emmener quelque part ailleurs. Et c'est le sujet de la seconde tragédie, Iphigénie en Tauride, que Racine n'a pas traité, je crois qu'il en a eu l'intention, que Euripide avait traité, comme il avait traité Iphigénie à Aulis, et que Gluck a traité, comme il a consacré un autre opéra à Iphigénie à Aulis, et que Goethe a traité en écrivant, lui, qu'une Iphigénie en Tauride, qui est probablement le chef-d'œuvre absolu pour ce qui est de ce sujet.
Eh bien, messieurs, pour conclure, en fait, les métamorphoses, ça signifie une quête initiatique, ça signifie un désir de transcendance, mais peut-être tout simplement une métaphore du personnage qu'on représente. Qu'est-ce que c'est finalement ?
J'avais dit une fois à Pierre Brunel, pour être un peu coquin, que la métamorphose n'est pas un mythe, et que la chenille devient papillon, et que l'eau devient glace. Donc c'est peut-être, sans aucun doute, c'est évidemment un mythe, mais c'est peut-être le mythe le plus profond parce qu'il renvoie à la capacité de changer d'état. Et alors du coup, il est traité généralement de deux manières, enfin Pierre Brunel complétera sans aucun doute, soit la métamorphose c'est aller jusqu'au bout de l'accomplissement de l'être que l'on est. Le cruel devient pierre, la pleureuse devient fontaine, que sais-je. Bon, la métamorphose au fond réalise physiquement ce qu'on était spirituellement ou mentalement. Soit au contraire, elle est un dépassement absolu de ce que l'on était, et elle est promesse d'immortalité, de survie. En particulier, les anciens croyaient beaucoup à la métamorphose en astre, ce qu'on appelait le catastérisme, qui est une sorte de forme d'immortalisation. Les Romains y croyaient.
Le 15e livre des métamorphoses.
Le 15e livre des métamorphoses est entièrement tourné autour de cette question. Et c'est d'ailleurs le fameux oui-wam final, je vivrai, c'est que dans son esprit, Ovid dit, comme Auguste, comme César, comme d'autres, je deviendrai un astre, je serai transformé en astre. Donc la métamorphose remplit ces deux fonctions. Soit on est enfermé, on devient ce que l'on est jusqu'au bout, soit au contraire, elle est un tremplin, une sorte de lancement vers une nouvelle condition. Et voilà pourquoi ça a été évidemment un mythe si fécond, et voilà pourquoi, en effet, comme l'a dit Pierre Brunel, ce fut le premier qu'il ait choisi lorsqu'il s'agit de trouver une thématique pour l'aviation de net moderne dans les années 70, où là, vraiment, c'était le mythe par excellence.
Moi, j'aime beaucoup cette formule « deviens ce que tu es ». Et il y a une figure mythique qui illustre parfaitement cela, c'est Protée dans l'Odyssée, ce vieillard de la mer qui est susceptible de prendre toutes les formes possibles et imaginables, mais si on le tient bien solidement, il redevient lui-même.
Donc, toutes les qualités, parce qu'il peut être multiforme, mais il a quand même une assise
Exactement.
Personnelle.
Exactement.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci, madame.
Merci.